Pardon de commencer par ça, mais ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles de Rebecca. Est-ce que vous savez quelque chose?
Vous pouvez arrêter de me mettre dans cette situation, ça m'embarrasse. Je vous dirai rien.
J'ai essayé de la rappeler toute la semaine. Je sais pas, je comprends pas. On verra ce qu'elle me dit tout à l'heure.
Tout à l'heure?
Oui, quand je la croiserai dans votre salle d'attente.
Philippe, je vais déroger à la règle, mais vous n'allez pas la voir tout à l'heure. Elle a changé son horaire et son jour.
Je vois. Je vois. Vous voyez là, au moins c'est clair. Remarquez, c'est pas surprenant.
Qu'est-ce qui est pas surprenant?
Bon, je la comprends. Elle a sa vie, ses enfants, son mari. Et puis elle est peut-être de votre avis. Elle croit sans doute que je veux revivre un passé révolu, que je veux réparer ce que j'avais raté. La fameuse répétition, comme vous avez dit.
Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait interroger votre désir aujourd'hui. Regarder vers l'avenir. Plutôt que vers vos 15 ans.
Notre avenir, ça semble bien compromis. À quoi bon, maintenant? À notre dernière séance, je vous ai parlé de mes doutes quant à mon désir de continuer à exercer. Vous m'avez demandé de prendre la semaine pour réfléchir. Et j'ai pris ma décision. J'arrive au bout de quelque chose. Que Rebecca me suive ou non, ça ne changera rien à ma décision de fermer mon cabinet et de partir. J'arrête de pratiquer. Je vais accepter ce poste à Montpellier.
Ce poste à Montpellier? Vous êtes sérieux?
Oui, oui. J'ai l'opportunité de... Enfin, je postule pour un poste au département de psychanalyse de l'université Paul Valéry à Montpellier. Bon, je devais en parler à Rebecca, mais...
Vous l'avez dit à vos patients?
Je pars pas demain. Et puis, mes patients, ils me quittent un pas. Vous savez, Lydia, ma patiente qui a le cancer, cette semaine, elle m'a annoncé qu'elle arrêtait.
Sa thérapie?
Oui. J'ai pas essayé de l'en dissuader. Je l'ai laissé partir. De toute façon, j'avais plus le choix.
Plus le choix de quoi?
J'ai dû appeler sa mère. Lui apprendre la maladie que sa fille voulait lui cacher. À ce moment-là, j'ai compris que je sacrifiais toute possibilité de continuer à être son thérapeute.
Toujours cette tenace tendance aux symptômes du sauveur qui vous suit, qui vous poursuit.
Non. Écoutez, vous n'allez pas remettre ça avec votre symptôme du sauveur. Je trouve qu'il a ses limites, votre concept. Je le trouve même un peu trivial.
Vous n'avez pas tout à fait tort. Et j'ai repensé à nos dernières séances. Je me suis dit qu'en effet, il fallait chercher plus loin. Et que ce symptôme du sauveur, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière cet arbre?
Le moyen d'accéder à la reconnaissance de l'autre, en l'occurrence celle de vos patients. Un impérieux besoin de reconnaissance. qui vous a écarté petit à petit des préceptes stricts du travail analytique, qui vous en a fait perdre le goût, la nécessité, la... et vous a conduit à cette panne de désir.
Panne de désir?
Oui, qui se répète. Comme avant, à vos 15 ans, avec Rebecca, puis plus tard face à Ariane. Et vous y répondez de la même façon, vous fuyez.
Ce que je finis par apprécier chez vous, c'est votre obstination.
Alors de qui voulez-vous être reconnu?
Écoutez, je vous ai dit la semaine dernière que je ne désirais plus continuer mon analyse.
Oui, je sais, c'est pour moi que vous êtes revenu. Eh bien, je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Peut-être que quelque chose en vous n'est pas forcément d'accord avec la décision que vous prenez. Et que vous vous donnez une dernière chance.
Je vous ai dit la forte sensation que j'ai ressentie en vous lisant. La totale adhésion avec votre vision du métier, vos points de vue sur la clinique, l'approche des patients. Et tout ça est traversé d'une telle foi, une incroyable foi en la pratique analytique.
C'est de cette foi dont vous voulez me parler?
De cette foi, oui, en effet. Et c'est votre livre qui me l'a fait comprendre. Tout ce qui nourrissait ma pratique à mes débuts, l'investissement que je mettais dans mon métier, cette foi, moi aussi, que j'avais en la psychanalyse. Aujourd'hui, le feu ne brûle plus en moi comme il brûle en vous. Je peux vous poser une question? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes devenu psychanalyste?
C'est assez simple, assez banal. J'ai déjà analysé ça depuis bien longtemps. Pour pas faire comme mon père. Il était psychiatre et il détestait la psychanalyse. Alors évidemment, j'ai fait le contraire. Après mes études de psychiatrie, je me suis tournée vers la psychanalyse. J'ai voulu prouver que la psychiatrie n'était pas à même de traiter certains symptômes. Voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Vous voyez, tous les psys ont l'origine de leur vocation chez papa, maman.
Je ne vous le fais pas dire. Vous avez quand même fait psychiatrie avant. Et à un moment, vous avez voulu faire comme votre père.
Oui, c'est vrai. Au début, j'ai voulu plaire à papa. Pas très original. Voilà, pour moi, la découverte du processus psychique et la pratique analytique ont été une chose déterminante. Et c'est devenu une passion qui m'a nourrie et qui m'a jamais quittée. Et puis j'ai écrit ce livre.
Et puis vous avez quitté Lyon?
Après, c'est une autre histoire. Ça n'a pas vraiment à voir avec la question qui nous occupe. Après, c'est plus compliqué.
Racontez-moi. Qu'est-ce qui était si compliqué?
Le livre a trouvé un bon éditeur.
Si on lui donnait un nom à cet éditeur?
Oui. Damien, c'est lui qui s'occupait de mon livre. Et très vite, les retours de la presse ont été très enthousiastes. L'éditeur a élargi les tirages. Et voilà.
Et voilà quoi?
Je suis partie à Paris pour suivre mon livre, les rencontres, les interviews, enfin, bon, tout le cirque de la promo.
Et l'éditeur?
Oui. Je me suis installée à Paris, chez lui, si vous voulez savoir.
Ça a dû être une période exaltante. Grisante, non? L'euphorie de la réussite du livre, la la promesse d'une belle histoire d'amour. Vous avez tout quitté. La vie que vous aviez construite à Lyon, vos patients. Mais ça ne vous a pas comblé, n'est-ce pas?
Non, en effet. Tout ça m'a mené dans une impasse. Quand tout ce tumulte est retombé, je me suis rendu compte que... J'ai compris que tout ça n'avait aucun sens. Toute cette agitation, ça ne me correspondait pas. J'ai ressenti une espèce de sentiment d'imposture.
D'imposture?
Un sentiment d'imposture, oui. À jouer le rôle de quelqu'un d'autre, loin de soi, entouré d'une attention, d'une bienveillance feinte, fausse, hypocrite. Et je me suis retrouvée plus seule que jamais. Au début, je me suis raccrochée à mon cabinet, à mes nouveaux patients. Mais vous me l'avez fait remarquer, j'y arrive plus bien.
Et Damien?
Damien, c'était une illusion.
Tout à l'heure, vous évoquiez à mon sujet ce fameux besoin impérieux de reconnaissance. Car il s'agit bien de ça, n'est-ce pas? Alors, à mon tour, je vous pose une question. Toute cette reconnaissance que vous avez obtenue, à qui était-elle destinée?
Je sais à quoi vous pensez.
Je sais que vous savez. Peut-être était-ce pour offrir sur un plateau au grand professeur en psychiatrie pour vous acquitter, vous affranchir de votre dette.
Je vous l'ai dit, mon père n'aime pas la psychanalyse. Il la reconnaît pas, il l'a jamais reconnue. Il la déteste. Il s'en fout.
Cette dette, vous en avez fait l'objet principal de votre livre. Sacha, cette jeune fille en détresse que vous décrivez, en prise avec son père, fragile, au bord de se briser, de mettre fin à ses jours, et que la cure finalement sauve. Elle vous ressemble quand même pas mal, non?
C'était une patiente.
Et vous en avez fait l'héroïne de votre premier livre. Quelle dette avez-vous encore à payer, Claire?
Je pourrais vous poser la même question.
Ce que je sais, c'est que cette dette-là, celle qu'on a envers celui qui nous donne son nom, elle ne se rembourse jamais une fois pour toutes. Elle n'est jamais acquittée définitivement. Elle est toujours en cours de règlement, jusqu'à notre dernier souffle.
Ça nous laisse un peu de temps.
Vous vous êtes réfugié ici, dans votre cabinet?
Depuis quelques jours, oui.